Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire les entretiens de Douce Mère. C'est-à-dire, c'était des classes que Mère donnait aux enfants, à ses étudiants, pas seulement les enfants, mais comme on est tous des enfants, en 1953, à l'ashram. Voilà. Alors, cet entretien est du 9 décembre 1953. Alors, la question que pose un enfant à Douce Mère, « Mère, la souffrance vient de l'ignorance et de la douleur. Mais quelle est la nature de la souffrance et de la douleur que la Mère divine sent pour ses enfants ?» La Mère divine dans Savitri. Savitri, c'est l'épopée de Sri Aurobindo. C'est parce qu'elle participe à leur nature. Elle est descendue sur la terre pour participer à leur nature. Parce que si elle ne participait pas à leur nature, elle ne pourrait pas les mener plus loin. Si elle restait dans sa conscience suprême où il n'y a pas de souffrance, dans sa connaissance et dans sa conscience suprême, elle ne pourrait pas avoir de contact avec les êtres humains. Et c'est pour cela qu'elle est obligée d'adopter la forme et la conscience humaine, c'est pour pouvoir entrer en contact avec eux. Seulement, elle n'oublie pas. Elle a adopté leur conscience, mais elle reste en rapport avec sa conscience propre, suprême. Alors, en joignant les deux, elle peut faire un progrès à ceux qui sont dans cette conscience-là. Mais si elle n'adoptait pas leur conscience, si elle ne souffrait pas de leur peine, elle ne pourrait pas les aider. Ce n'est pas une souffrance d'ignorance, c'est une souffrance d'identité. C'est parce qu'elle a accepté d'avoir les mêmes vibrations qu'eux, afin de pouvoir entrer en contact avec eux et de les tirer de l'état où ils sont. Si elle n'entrait pas en contact avec eux, elle ne serait pas perçue du tout, ou personne ne pourrait supporter son rayonnement. On a dit cela sous toutes sortes de formes, dans toutes sortes de religions. On en a parlé très souvent dans le sacrifice divin. Mais, d'un certain point de vue, c'est vrai, c'est un sacrifice volontaire. Mais c'est vrai, renoncer à un état de connaissance parfaite, de félicité parfaite, de pouvoir parfait, pour accepter l'ignorance du monde extérieur, afin de pouvoir le tirer de cette ignorance. Si l'on n'acceptait pas cet état, on n'aurait aucun contact avec lui. Il n'y aurait aucun rapport possible. Et c'est cela la raison des incarnations. Autrement, il n'y aurait aucune nécessité. Si la conscience divine et la force divine pouvaient s'exercer directement du lieu ou de l'état sur la manière, du lieu ou de l'état de leur perfection, si elles pouvaient s'exercer directement sur la matière et la transformer, il n'y aurait aucune nécessité de prendre un corps comme celui des hommes. Alors je me permets de répéter. Si la conscience divine et la force divine pouvaient s'exercer directement du lieu ou de l'état de leur perfection, si elles pouvaient s'exercer directement sur la matière et la transformer, il n'y aurait aucune nécessité de prendre un corps comme celui des hommes. Il n'y aurait qu'à agir du monde de vérité avec la parfaite connaissance et sur la conscience. En fait, cela agit peut-être, mais d'une façon tellement lente, que quand il y a un effort pour faire un progrès au monde, pour le faire avancer d'un pas plus rapide, quand il y a cet effort pour faire un progrès au monde, pour le faire avancer d'un pas plus rapide, eh bien il faut adopter la nature humaine. En adoptant le corps humain, on est obligé d'adopter la nature humaine partiellement. Seulement, au lieu de prendre sa conscience et de perdre le contact avec la vérité, on garde cette conscience et on garde cette vérité. Et c'est en joignant les deux que l'on peut justement produire cette espèce d'alchimie de transformation. Mais si l'on ne touchait pas la matière, on ne pourrait rien faire pour elle. Est-ce que Savitri prévoyait ce qu'elle allait faire? Question amère. Elle l'a dit. Tu ne l'as pas lu? On lui a même annoncé qu'elle serait seule. Et elle a dit « Je suis prête à être seule ». Tu ne l'as pas lu? C'est dans ce qu'ils ont récité l'année dernière. Est-ce qu'elle savait qu'elle allait rencontrer la mère des douleurs? Mother of Sorrow. La mère du pouvoir, Mother of Power. C'est justement, il est dit du long qu'elle savait, tout du long, qu'elle savait tout ce qui allait se passer. C'est écrit clairement, justement. À chacun, elle dit clairement, « Je vous apporterai ce qui vous manque. » Par conséquent, elle le sait. Autrement, elle ne le dirait pas. Si elle ne le savait pas, comment pourrait-elle le dire? Question amère. Dans Savitri, la mère des douleurs dit « Peut-être quand le monde sombrera dans le dernier sommeil, dormirai-je moi aussi dans une paix muette et éternelle. » Alors, c'est le livre 7, quant au 4, page 573. Perhaps when the world sinks into a last sleep, I too may sleep in dumb eternal peace. In English. Ah, cela, c'est la conscience humaine. C'est la conscience humaine. C'est l'idée de la conscience humaine que quand toutes les souffrances seront finies, eh bien, je me reposerai. C'est bien de cela dont Sri Aurobindo parle. Quand il y a cette aspiration à une paix souveraine, on a l'impression que s'il y avait un pralaya et que le monde disparaisse, eh bien au moins il y aurait la paix. Mais rien que la phrase elle-même est en contradiction, parce que s'il y avait un pralaya, il n'y aurait plus de paix à sentir, il n'y aurait plus rien du tout. Mais c'est cela, c'est l'une des contradictions de la conscience humaine. Tant que le monde sera là et qu'il y aura une souffrance, je souffrirai avec le monde. Mais si jamais le monde entre dans la paix, disparaît dans la paix de l'inexistant, alors moi aussi, je me reposerai. C'est une façon poétique de dire que quand le malheur sera sur le monde, je souffrirai avec le monde. C'est seulement quand ça cessera que ça cessera pour moi aussi. Alors que fera la mère des douleurs? Quelle autre chose peut-elle faire? Réponse de mère. Elle sera la mère de félicité, the mother of delight. Sa vitrine représente la conscience de la mère, n'est-ce pas? Mère répond oui. Question. Que représente Satyavan? C'est l'avatar, n'est-ce pas? C'est l'incarnation du suprême. Réponse de mère. Alors je me permets de répéter ce que représente Savitri. Mère répond. Savitri représente la conscience de la mère. Question. Que représente Satyavan? C'est l'avatar, n'est-ce pas? C'est l'incarnation du suprême. Alors, je continue. Le 23 décembre 1953, question à mère. S'il est impossible pour le mental de trouver la connaissance, quelle est la partie de l'être qui trouve la connaissance? Il faut entrer dans la connaissance qui appartient au domaine supramental. Réponse de mère. Comment fait-on pour la faire descendre? Mère, chaque fois qu'il y a quelque chose qui attire cette connaissance et qui est évidemment prêt à la recevoir, elle vient. Question. Ça ne descend pas dans le mental, douce mère? Oui, bien sûr, ça descend dans le mental. C'est dans la partie supérieure du mental ou bien dans l'être psychique. On peut avoir la connaissance du psychique, quelle qu'elle soit, d'une autre nature et ne se formule pas comme dans le mental. C'est une sorte de certitude intérieure qui fait faire la vraie chose au vrai moment et de la vraie manière, sans nécessairement passer par le raisonnement ni la formation mentale. Par exemple, on peut agir avec une connaissance parfaite de ce qui doit être fait et sans intervention, sans la moindre intervention du raisonnement mental. mental. Un mental silencieux. Simplement il regarde et il écoute pour enregistrer les choses et n'agit pas. Ici, question. Tu as dit la connaissance appartient à un domaine beaucoup plus élevé que celui de la mentalité humaine, bien au-dessus de la région des idées pures. Douce mère, qu'est-ce que tu entends par des idées pures? Nous avons déjà dit cela une fois, et il n'y a pas très longtemps. Les idées pures, c'est ce qui se traduit par des pensées multiples. Une idée peut donner naissance à beaucoup de pensées. Et si elle peut exprimer, et elle peut les exprimer de beaucoup de différentes manières, et pourtant, elle reste ce qu'elle est. Question. Quelquefois, nous regardons fixement un point, on oublie tout à ce moment-là, et s'il y a un bruit, on est dérangé. Quel est cet état? La concentration. C'est justement le principe même de la concentration. Est-ce que tu peux le faire spontanément? Oui, beaucoup de fois. Tiens, c'est très bien. Question. Oui, douce mère, mais ce que j'avais pensé, c'est qu'à ce moment-là, je ne peux pas l'attraper. Ah, si on te tire de là brusquement, la pensée s'évanouit. Mère, continue. C'est parce que tu entres dans un état de conscience qui est différent de ton état de conscience ordinaire, et probablement le lien entre les deux n'est pas très bien établi. Cela prend du temps. C'est comme si l'on devait construire un pont. Autrement, on fait un saut brusque d'un côté ou de l'autre, et alors en sautant, on oublie ce qui était là. On laisse derrière l'expérience que l'on a eue. Mais si l'on fait la chose méthodiquement, c'est-à-dire si tous les jours on prend un certain temps pour cela et que l'on fasse une méditation de 10-15 minutes pour établir le contact entre ça et la vie extérieure, eh bien, au bout de certains temps, on réduit, on réussit et on se souvient et cela devient extrêmement utile. C'est très utile. Et si ton pouvoir de concentration est complet, alors il n'y a pas de problème que tu ne puisses résoudre. Je ne peux pas dire des problèmes arithmétiques. Je veux dire des problèmes de conduite de vie, de décision à prendre, des problèmes psychologiques à résoudre. Il n'y en a pas un qui résiste à ce pouvoir de concentration. Question. Douce mère, quand on passe dans la région de la connaissance, est-ce qu'il faut passer par des régions intermédiaires? Intermédiaires? Mais tu vois, si l'on fait une discipline méthodique, on est obligé de passer d'un plan à l'autre. On éveille, on s'éveille dans un certain plan, et puis on va là, on entre dans le repos et on s'éveille dans un autre plan, et ainsi de suite. Et si on le fait comme cela, alors on se souvient parce que l'on fait avec sa volonté consciente et l'on assiste à l'opération. Ces mouvements pour tranquilliser l'être afin de pouvoir justement entrer quelque part et voir ce qui se passe, et le mouvement de prendre des notes de ce qui se passe et de se préparer à une ouverture plus haute, tout cela établit le contact conscient entre les parties de l'être, et alors on peut avoir des expériences sans rien oublier, et par-dessus le marché, à volonté. Mais il y a des personnes peu éduquées, par exemple, qui ont tout d'un coup une faculté et qui ont une expérience directe, quelque part, dans le mental supérieur, ou dans l'être psychique, ou dans une autre partie de l'être. Il y a beaucoup de raisons à cela. Ce peut être le résultat de vies antérieures, ce peut être un phénomène de conscience actuelle, ce peut être beaucoup, beaucoup de choses. En tout cas, pour que ce soit pleinement utile, il faut que ce soit fait avec la volonté de l'utiliser pour le progrès, pour son progrès, et de devenir conscient des différentes parties de l'être afin de pouvoir faire ce que l'on doit faire au mieux de ses capacités. Par exemple, j'ai connu des gens qui étaient absolument ignorants et inéduqués, mais qui avaient un don de vision et un don remarquable. Si on les mettait en transe, ils voyaient merveilleusement et ils décrivaient. Ils savaient voir et décrire tout ce qu'ils voyaient pendant qu'ils le voyaient. Quand ils étaient sortis de cette condition-là, c'était des êtres absolument ordinaires et sans aucune éducation et sans intelligence. Mais c'était un don merveilleux. C'est-à-dire qu'il y a des êtres qui peuvent faire les plus grands progrès au point de vue spirituel et même intellectuel, ce qui en apparence et dans leur vie extérieure sont tout à fait ordinaires. Il y en a d'autres, j'en ai connu, qui avaient une réalisation. Alors je reprends, pardonnez-moi. Il y en a d'autres que j'ai connus qui avait une réalisation spirituelle absolument merveilleuse, qui vivait constamment dans la présence divine et qui n'avait jamais eu de vision de leur vie. Et ils s'en plaignaient. C'est une question de tempérament, de destinée et probablement de travail que l'on doit faire. Parce qu'il est évident que l'on ne peut pas tout faire physiquement, c'est impossible. Par conséquent, il faut choisir. Une autre question. Quand le corps tombe malade, est-ce que le mental et le vital tombent malades aussi? Pas nécessairement. Les maladies, je vous l'ai déjà expliqué, viennent généralement d'une dislocation entre les différentes parties de l'être, d'une sorte de désharmonie. Eh bien, il se peut très bien que le corps n'ait pas suivi certains mouvements de progrès, par exemple, qu'il soit resté en arrière, et que, au contraire, les parties de l'être aient progressé, et que ce déséquilibre-là, cette rupture d'harmonie, crée la maladie. Et le mental peut être en très bon état, et le vital aussi. Il y a des gens qui ont été malades pendant des années, des maladies terribles et incurables, et qui ont gardé leur capacité mentale, merveilleusement claire et qui progressait mentalement. C'était un poète français, un très bon poète, qui s'appelait Sully Prudhomme. Il était mortellement malade et à ce moment-là qu'il a produit ses plus beaux poèmes. Il restait d'une humeur charmante, aimable, souriante, aimable avec tout le monde. Et pourtant, son corps s'en allait en morceaux. Cela dépend des gens. Il y en a d'autres, au contraire, dès qu'ils ont le moindre mal, tout est déséquilibré, du haut en bas. Ils ne valent plus rien. Pour chacun, la combinaison est différente. Question. Et si le corps ne va pas bien? Cela dépend des gens, je te dis. Il y a des gens, dès qu'ils ont la moindre chose à leur corps, leur mental est complètement déséquilibré. Il y en a d'autres qui peuvent être très malades et qui gardent leur mental très clair. Il est plus rare et plus difficile de voir un mental qui est déséquilibré et un corps qui reste sain. Ce n'est pas possible. Mais c'est beaucoup plus rare parce que le corps dépend beaucoup de l'état du mental. Le mental, je l'ai écrit là, est le maître du physique. Je répète, le mental est là, le maître du physique. Et j'ai dit que le corps était un serviteur très docile et très obéissant. Seulement, on ne peut pas se servir de son mental, au contraire. Non seulement on ne sait pas s'en servir, mais on s'en sert aussi mal que possible. Le mental a un pouvoir de formation considérable et une action directe sur le corps. Et généralement, on se sert de ce pouvoir pour se rendre malade. Parce que, dès que la moindre chose ne va pas, le mental commence à former, à construire toutes les catastrophes possibles, à se demander si ce sera comme ci, comme ça, est-ce que ça ne va pas être comme ça et comment ça se terminera. Eh bien, si au lieu de laisser ce mental faire son œuvre tout à fait néfaste, on se servait de la même capacité pour faire des formations favorables. Simplement, par exemple, pour donner la confiance au corps, pour lui dire que c'est seulement un déséquilibre passager et que ce n'est rien, et que s'il entre dans un véritable état de réceptivité, le mal peut passer aussi facilement qu'il est venu, et que l'on peut se guérir en quelques secondes. Si l'on sait faire cela, on obtient des résultats merveilleux. Il y a une minute de choix, même dans un accident. Par exemple, on glisse et on tombe. Justement, entre le moment où l'on a glissé et le moment où l'on tombe, il y a une fraction de seconde. Mais à ce moment-là, on a le choix. Ça ne peut être rien, ça peut être très grave. Seulement, naturellement, il faut avoir la confiance tout à fait éveillée. Tout à fait être en rapport avec son être psychique constamment. On n'a pas le temps de se mettre en rapport. Il faut être en rapport. Entre le moment où l'on glisse et le moment où l'on est par terre, si la formation mentale et psychique est suffisante, ce n'est rien. Il n'arrivera rien et il n'arrive rien. Tandis que si à ce moment-là le mental est selon son habitude, un pessimiste et qu'il se dise « Oh là là, j'ai glissé », ça dure une fraction de seconde. Pendant une fraction de seconde, on a le choix. Il faut toujours, à chaque minute de sa vie, être totalement éveillé. Et pendant cette fraction de seconde, on a le choix. Où l'on peut empêcher l'accident d'être grave, et où l'on peut empêcher la maladie d'entrer en soi. On a toujours le choix, mais c'est une fraction de seconde, il ne faut pas la manquer. Si on la manque, c'est fini. Alors je voudrais vous lire quelque chose qui est la fin. C'est du 30 décembre 1953. Et cette question s'appelle « Qu'est-ce que tu appelles, douce-mère, l'esprit de destruction dans les enfants ?» En fait, ça concerne les enfants. Il n'est pas dans tous les enfants, j'en ai connu beaucoup, qui au contraire étaient très soigneux. Les enfants ne sont pas aussi concrétisés, matérialisés dans la conscience physique que les gens plus âgés à mesure que l'on grandit. C'est comme si l'on ne se coagulait, et on devient de plus en plus matériel dans sa conscience, à moins que par une action voulue, on ne se développe autrement. Par exemple, la plupart des enfants ont beaucoup de difficultés à discerner leur imagination, leurs rêves, ce qu'ils voient au-dedans, ou des choses extérieures. Le monde n'est pas aussi limité que lorsqu'on est plus grand et plus précis. Et s'ils sont extrêmement sensitifs au-dedans, ils sont beaucoup plus proches de leur être psychique que quand ils grandissent. Et ils sont beaucoup plus sensitifs aux forces qui, plus tard, pour eux, deviendront invisibles. Alors je me permets de dire ça parce que ça me rappelle quelque chose de mon enfance. Et s'ils sont extrêmement sensitifs au-dedans, ils sont beaucoup plus proches de leur être psychique que quand ils grandissent. Et ils sont beaucoup plus sensitifs aux forces qui, plus tard pour eux, deviendront invisibles. Mais à ce moment-là, elles ne le sont pas. Il n'est pas rare que les enfants aient toutes sortes de crises, ou de peur, ou même de joie, dans leur sommeil ou dans leurs rêves. Les enfants ont peur de toutes sortes de choses qui, pour les plus âgés, n'existent pas ou plus. Leur vision n'est pas uniquement matérielle. Ils ont une sorte de perception plus ou moins exacte et précise du jeu des forces derrière. Alors étant dans cet état-là, ils sont influencés par des forces qui autrement n'ont pas de prise sur les gens qui sont plus enfermés en eux-mêmes et plus matérialistes. Et ces forces, les forces de destruction, par exemple, ou les forces de cruauté, les forces de méchanceté, les forces de malveillance, toutes ces choses sont dans l'air. Quand on est plus conscient et plus construit intérieurement, on peut les voir comme extérieurs à soi-même et se refuser à leur donner une expression. Mais quand on est tout petit, et quand on est dans un demi-rêve, ces choses peuvent prendre beaucoup d'influence, faire aux enfants des choses que dans leur état normal, ils ne feraient pas. Il y a aussi un phénomène d'inconscience. Très souvent, un enfant fait du mal sans même s'en rendre compte que cela fait du mal. Ils sont inconscients. Ils sont enfermés dans leur mouvement et ils ne se rendent pas compte de l'effet de ce qu'ils font. Cela arrive très souvent. C'est-à-dire que si l'on éduque un enfant correctement et que l'on fasse appel à son sentiment le meilleur, qu'on lui explique que de faire des choses de telle ou telle manière est nuisible aux autres, on peut le leur rendre très tangible avec une démonstration. Ils cessent de faire ce mal très souvent. C'est surtout une question d'éducation. Ces mouvements de cruauté semi-consciente, il est très rare que les parents n'en aient pas. Eh bien, cela suffit à impressionner la conscience d'un enfant. Il y en a, mais c'est un très petit nombre qui ont au-dedans d'eux une formation adverse. Ça, ce sont les enfants irrémédiablement méchants. Mais ils sont rares. Il n'y en a pas ici. Heureusement. Alors, je termine avec cette question, cette dernière question du 30 décembre 1953. Quand les grandes âmes veulent naître sur la terre, est-ce qu'elles choisissent leurs parents? Cela dépend de leur état de conscience, cela dépend de leur formation psychique. Si l'être psychique est tout à fait formé, s'il est arrivé à la perfection de son être et qu'il est libre de s'incarner ou de ne pas s'incarner, il y a aussi la possibilité de choisir. Mais je crois que je vous ai déjà expliqué cela. Ils n'ont pas de vision physique comme la nôtre tant qu'ils ne sont pas dans un corps. Alors ils cherchent évidemment un corps qui soit adapté et propre à les exprimer. Mais il faut qu'ils fassent la part de l'inconscience matérielle, si l'on peut dire, et de la nécessité de s'adapter aux lois les plus matérielles du corps. Alors, au point de vue psychique, le choix de l'endroit où l'on est important, c'est plus qu'un détail insignifiant. Mais il y a tant de choses que l'on ne peut pas prévoir. Par exemple, on choisit un milieu, on choisit un pays, on choisit un genre de famille. On essaie de voir quelle est la nature des parents possibles. On leur demande certaines qualités déjà bien développées et une maîtrise de soi suffisante. Mais tout cela ne suffit pas. si l'on pouvait porter en soi-même un dynamisme suffisant pour résoudre les obstacles. Alors, compte fait, cela n'a pas énormément d'importance. De toute façon, même au mieux, même si les parents ont consciemment collaboré, il y a une masse énorme de subconscients et d'inconscients encore plus bas qui, de temps en temps, remontent à la surface, s'agitent, abîment le travail et rendent la tranquillité et le silence indispensables. Il faut toujours, toujours une préparation, même si l'on a choisi. Beaucoup de préparation. Sans parler des phénomènes de semi-abrutissement qui se produit au moment de la naissance, de la descente dans le corps et qui, quelquefois, prend très longtemps avant que l'on puisse y échapper tout à fait. Voilà. Alors, aujourd'hui, je termine cette lecture des entretiens de Douce-Mère de 1953. Je remercie infiniment Mère et Sri Aurobindo pour cette lecture qui est toujours un grand phénomène d'éducation pour chacun d'entre nous à Auroville. Merci Sri Aurobindo, merci Douce-Mère. Ganga Lakshmi.